Vos questions, nos réponses.
Bonjour à toutes et à tous. Quand prendre la décision de confier son proche à un établissement? C'est une question inévitable et difficile pour beaucoup d'aidants qui engendre bien sûr son lot d'émotions. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Dupuis, neuropsychologue et coordinatrice de l'offre de répit dans le Calvados. Bonjour Madame Dupuis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pour commencer, quels sont les signaux d'alerte chez l'aidant qui doivent amener à cette réflexion autour d'un placement en établissement?
Alors, le plus gros signe d'alerte chez les aidants, ça va être une dégradation de leur santé physique. C'est souvent ce qu'on constate, c'est des aidants qui négligent leur propre santé parce que la maladie du proche leur empêche de pouvoir penser à eux et de s'octroyer les temps nécessaires pour avoir des rendez-vous médicaux, pour prendre soin de leur santé. Et c'est surtout ce signe-là qui doit les alerter et qui souvent alerte l'entourage, en tout cas, de voir un aidant qui s'épuise. Puisqu'en fait, la base de ces problèmes de santé, c'est l'épuisement physique et psychologique qui induit une avancée importante dans la maladie et qui va compromettre leur propre santé. C'est principalement ce signe-là. Alors après, qui est lié à un manque de sommeil, qui est lié à une angoisse permanente, à une sollicitation importante de la part de l'aidé. Moi, j'ai pas de chiffres, mais certains avancent un aidant sur deux qui va mourir malheureusement avant l'aidé et qui meurt de ce qu'on appelle l'épuisement, c'est-à-dire tous ces problèmes de santé physique, de santé psychologique, et parce qu'ils sont allés trop loin dans l'accompagnement et donc dans l'épuisement, meurt avant la personne qui a la maladie. Ça laisse des familles et des malades dans des situations très très compliquées. Puis c'est pas ce qu'on souhaite pour les aidants.
Prendre la décision de confier son proche à un établissement, dans le cas d'un aidant, c'est presque un enjeu vital en fait.
Oui, alors de confier son proche à un établissement ou en tout cas de savoir demander de l'aide, puisque ça commence quand même par là.
Oui, c'est important de le rappeler. Mmh. Et alors, du côté de la personne malade, on imagine que dans certaines situations, pour des questions même de sécurité, tout simplement, de la personne, ça peut devenir compliqué de la maintenir à domicile. Quels sont les signes chez la personne malade qu'il est peut-être temps de réfléchir à une autre option?
Il y en a plusieurs. Et puis, ça va dépendre si c'est un malade, parce qu'on a quand même des personnes atteintes de ces maladies-là qui vivent seules. Donc, effectivement, chez quelqu'un qui vit seul ou qui vit accompagné, les signaux sont pas tout à fait les mêmes. Mais dans les grandes lignes, ce qui doit faire à un moment donné que les aidants se posent la question, c'est la mise en danger du malade lui-même et puis parfois de l'aidant. Ça peut être un malade qui inverse le rythme jour-nuit et qui du coup va déambuler à l'extérieur la nuit. C'est ce qu'on appelle les errances nocturnes, qui sont souvent effectivement des critères et des signaux d'une réflexion menée souvent en famille d'une future entrée en établissement. Ça peut être aussi une santé qui se fragilise avec des problèmes de mobilité dans une maison avec un étage ou avec des marches ou en appartement et où les déplacements sont compliqués. Là, la question d'un logement plus adapté et plus sécurisé va se poser. Et puis, alors la mise en danger, c'est aussi, j'ai discuté il y a quelques jours avec le fils d'une dame qui vit seule à domicile et qui ne sait plus, par exemple, faire fonctionner son micro-ondes, qu'il fait tourner avec des choses pas appropriées à l'intérieur, c'est des objets qui peuvent prendre feu. Et un malade seul aura pas forcément le réflexe de couper le courant, d'appeler les pompiers, et en fait va subir la situation et au risque de sa propre vie. C'est pas rare d'avoir des départs de feu chez des malades d'Alzheimer. Et quand on en arrive à ces situations-là, souvent la décision elle est prise en urgence de se tourner vers un établissement spécialisé.
Pour l'aidant, on est plus sur des questions ou des enjeux, en tout cas, de santé mentale et physique. Pour le malade également, mais il y a cette notion aussi de réel danger et du coup de mise en sécurité de la personne malade.
Oui, et les deux sont très liés, puisqu'en fait, un malade qui n'a plus forcément la conscience du danger, parce que le danger, c'est aussi laisser entrer des inconnus dans son logement, se faire spolier avec un démarcheur ou des choses comme ça. Il y a toutes ces situations-là, il y a le fait de à domicile pour un malade, ça veut dire aussi pouvoir vivre le quotidien, donc se préparer des repas, manger. Quand il y a des besoins d'accompagnement au quotidien, par exemple sur des moments de toilette ou de repas, il faut encore que la personne accepte cette aide-là. Et quand tout ça est compromis, c'est là où arrive aussi l'épuisement de l'aidant, puisque c'est lui qui va devoir tout gérer au quotidien. Et à un moment donné, c'est une trop grosse charge Et c'est aussi à ce moment-là qu'on en vient à souvent réfléchir à la question de l'entrée en institution.
Bien sûr. Et alors, une fois qu'on a pris justement en compte ces différents signaux d'alerte et que la décision d'un placement en établissement se profile, comment en parler avec son proche malade ou avec son entourage, avec le reste de la famille, par exemple?
Alors, ça va être plus facile d'en parler avec l'entourage, en exposant clairement la situation. Généralement, de toute façon, quand l'aidant en vient à se poser ces questions-là, l'entourage, lui, a déjà réfléchi depuis un petit moment, puisque lui voit la situation de l'extérieur et voit la santé de l'aidant souvent se dégrader. Ça devient plus possible. En fait, souvent, c'est ça les mots qui est plus possible. Et c'est plus possible parce que l'aidant ne dort pas la nuit, parce qu'il faut surveiller le malade qui, lui, se lève beaucoup de fois mais se rendort très bien. Parce que il y a de l'agressivité qui peut être verbale ou qui peut être un petit peu plus physique quand on a un aidé qui commence à avoir des difficultés de compréhension. Quand l'aidant dit que c'est plus possible, généralement à ce moment-là, c'est là qu'il y a les conseils de famille où il y a des décisions qui vont être prises. Alors souvent, le pas du passage en établissement, même quand l'aidant est épuisé, peut être compliqué et difficile. Mais en tout cas, la décision souvent en famille, elle est prise et après, c'est passer le cap et puis trouver le bon établissement, puisqu'après, ça pose d'autres questions. C'est pas toujours évident parce que on est sur une maladie qui a la particularité de faire que les gens n'ont pas forcément conscience à tous les moments de leur maladie d'être malade. Donc quand vous n'êtes pas conscient d'être malade, de vous mettre en danger, de plus pouvoir vivre seul, quand on vous le dit, on l'entend pas puisqu'on n'a pas cette conscience-là de son état. Il y a des malades qui peuvent l'entendre et qui disent que oui, c'est une bonne décision et qu'il faut le faire, mais on n'est quand même pas sur les cas les plus fréquents. Le plus souvent, c'est amené autrement ou alors par d'autres biais qu'une entrée définitive en établissement. On peut passer par des séjours temporaires où là, la personne aidée va pouvoir se familiariser avec un endroit, commencer à entrevoir une nouvelle façon de vivre et puis aussi une vie un peu plus en sécurité. Et dans ces cas-là, souvent, le passage entre l'hébergement temporaire et l'hébergement un peu plus permanent va se faire plus facilement.
Ça permet de faire une bonne transition.
Oui, parce que du coup, c'est expliquer à un malade ce que vont être les bénéfices pour lui d'une entrée en institution. C'est tellement abstrait et tellement pas envisageable qu'il peut pas l'entendre. Alors que quand il y est et qu'il le vit, c'est plus facile. Il l'expérimente et lui dire, tu vois, ici, tu vas pouvoir rester plus longtemps parce que les dames, elles sont gentilles avec toi. Puis tu vois, moi, pendant ce temps-là, je peux me reposer. Et puis, tu manges bien, il y a du monde. Et c'est plus facile parce que, il y est, donc il se rend compte. Alors que expliquer à quelqu'un, demain, tu vas entrer en résidence parce que tu peux plus rester à la maison. Psychologiquement, même si vous êtes malade, c'est compliqué à entendre. On vous impose quelque chose, alors que là, avec le séjour temporaire, c'est une proposition finalement et qui peut durer un petit peu. Puis après, on délaye un peu dans le temps. Et c'est important de laisser au malade aussi l'idée que même si dans notre tête, quand on le dit, on le sait que c'est pas vrai, mais que c'est peut-être pas définitif. Que comme ça, ça lui permet de voir, d'essayer, de se rendre compte. Et puis derrière la maison de retraite, quel que soit l'âge et quelle que soit la maladie qu'on a, il y a toujours cette notion un peu d'enfermement qui est véhiculée. Et qu'on soit malade ou pas malade, ce stéréotype-là, il est ancré.
Que ce soit par le biais d'un hébergement temporaire ou que ce soit directement du coup dans un établissement type EHPAD, j'imagine que chaque situation est différente, bien sûr, mais est-ce que vous auriez des conseils sur les termes à employer ou à ne pas employer pour parler de cette situation-là avec la personne malade ou le moment à créer peut-être pour annoncer ça?
Alors, ce qu'on peut conseiller aux aidants, c'est de pas forcément utiliser des mots comme « demain, tu rentres en EHPAD » ou en maison de retraite, parce qu'il y a, je vous dis, toute cette image que ça véhicule. Mais souvent, les familles nous disent « moi, je lui parle de maison de repos ». Je lui dis « tu vas aller en maison de repos un petit peu ». Et puis souvent, c'est pas dans notre culture de pas dire la vérité, mais parfois, vaut mieux des fois la dire petit à petit. Et commencer par dire que, et souvent c'est vrai, quand le malade va entrer en établissement, soit lui a un problème de santé, qui a besoin d'être un peu suivi, soit c'est l'aidant qui, lui, doit subir une petite opération, par exemple, ou il y a un problème avec les enfants qui vont pas être là pendant quelques temps, donc ils vont pas pouvoir nous aider. Souvent, nous, on parle de l'épuisement de l'aidant. On dit, votre épouse est très fatiguée, elle a besoin de se reposer, donc en attendant, vous allez venir un petit peu avec nous, le temps qu'elle se repose, puis après, on verra. Voilà, pas donner une échéance, en fait, même si on le sait que quand il y a une entrée en institution, qu'elle est sur un hébergement permanent, il va rester dans l'EHPAD. Mais on peut lui dire qu'on verra. Là, c'est l'hiver, c'est mieux parce qu'au moins il va être entouré, parce que il y a du monde autour de lui, il sera mieux qu'à la maison tout seul. Et puis, on en reparle dans quelques mois, on voit comment ça se passe. Et après, nous, les professionnels, on sait qu'au bout d'un moment, le malade, il va se familiariser avec l'endroit où il se trouve. Bien sûr, c'est pas 100% des personnes malades qui réagissent comme ça, mais c'est quand même la plupart. C'est des questions qu'elles poseront plus après. Moi, des dames à qui les familles avaient dit, mais t'es là quelques temps parce que le médecin a dit que t'avais mal au dos et que c'était bien que tu sois là parce qu'ils vont pouvoir s'occuper de tes problèmes de santé. Le lendemain de son entrée, alors qu'elle voulait absolument pas entendre parler d'établissement, la dame a dit au soignant qui était présent, ma fille m'a dit que j'allais pas rester longtemps avec vous, mais c'est dommage parce que je m'entends bien, moi je suis bien ici. Et en fait, ça, c'est ce qu'on doit attendre. En fait, c'est vaut mieux les laisser expérimenter ça et dire, bah, finalement, c'est pas mal ici. Que l'inverse, que dire, bah, c'est comme ça, tu vas là, et de toute façon, moi, je peux plus te garder à la maison, et c'est pour ça que tu dois aller. C'est plus facile pour les dents, et c'est important que le malade, même si c'est pas une situation qu'il accepte facilement, mais qu'il puisse lui dire que, il peut décider de son avenir. Même si on sait bien, dans les faits, qu'il n'en a plus forcément la capacité réelle, et lui laisser entrevoir l'idée que, bah, c'est quand même lui qui décide, ça évite un peu le conflit au moment de l'entrée en institution.
Que c'est pour son bien, mais qu'il peut dire ce qu'il ressent et comment est-ce qu'il expérimente la situation.
Oui.
Bien, merci beaucoup, Madame Dupuis, pour votre regard et vos conseils sur cette problématique qui est rencontrée par beaucoup d'aidants qui nous écoutent. On espère d'ailleurs que cet épisode aura pu vous aider. Si vous vous interrogez sur le placement de votre proche en établissement, je vous invite à écouter nos autres émissions sur ce sujet, dont un autre épisode avec vous, Vanessa Dupuis, sur les alternatives à l'EHPAD. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'antenne associative France Alzheimer et maladies apparentées la plus proche de chez vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.